Jouer pour aider la recherche, voilà un slogan qui pourrait vous accueillir sur la page de Moral Machine, une mise en situation imaginée par le Massachusetts Institute of Technology, MIT, afin d'établir un profil type des décisions que devrait prendre un véhicule autonome en cas de situation de crise. Le principe est simple, votre écran se divise en deux scénarios possibles. Dans la première, par exemple, ou bien la voiture fonce dans une cloison en tuant ses 5 passagers, ou bien elle fonce sur le passage clouté en tuant 5 personnes dont on précise que 2 d'entre eux sont médecins. Dans la situation suivante, il faut choisir entre des vies humaines et des vies animales. Dans la situation suivante encore, entre des vies de personnes âgées ou des vies de domicile fixe. Bon, je joue et je clique au hasard pendant les 13 scénettes. En fin de simulation, mes décisions sont comparées à la moyenne des décisions des autres et l'on m'annonce solennellement que mes résultats seront mis au rebut, tout en espérant que j'ai passé un bon moment. Il est 14h passé de 1 minute. Sur France Culture, je n'ai pas beaucoup aidé la recherche. Bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Chaque jour, la rubrique 5 fois donne à entendre 5 récits subjectifs en lien avec le chantier thématique de la semaine. Christiane Peugeot est la fille d'Eugène Peugeot, petite fille de Robert Peugeot. Et née en 1927, elle est surtout une fille. La conscience de cette place dans la société et la dynastie industrielle automobile revient dans nombre des récits qu'elle a confiés à Alice Ramon. Aujourd'hui, elle est aussi nièce de.
Moi, j'avais un oncle et il était un peu le tout fou de la famille. Et lui, il disait que quand il arrivait à un croisement, il accélérait, il fermait les yeux, il accélérait. Il disait comme ça, je diminue le temps où je suis en danger à rencontrer une autre voiture. Oh, il était tout fou, lui. Hein.
Il était tout fou aujourd'hui. Christiane Peugeot nous parle d'un temps où les ceintures de sécurité n'étaient pas de mise. Accident vers 14h50. C'est donc le troisième moment de ce chantier thématique consacré à la voiture. Nous irons de l'écran au circuit et ferons le chemin retour du circuit à l'écran. Mais avant toute chose, nous irons très vite. Car si les décors, les impressions de réel, la modélisation des paysages en 3D, si tout cela évolue au cours de l'histoire du jeu vidéo de voiture, le principe reste souvent le même. Il faut être celle ou celui qui roule le plus vite pour gagner. Peut-être que vous allez nous apprendre le contraire. Olivier Moko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, vous enseignez d'ailleurs à Sciences Po. Vous êtes concepteur de médias ludiques, comme par exemple ce dernier petit nez qui s'appelle The Good Drive. De quoi s'agit-il ?
C'est un jeu vidéo pour apprendre à conduire, qu'on a élaboré. On partait du principe que finalement, ce qu'on voyait à l'écran, qu'on avait l'habitude en tant que joueur de gérer beaucoup de choses qui bougent, on s'est dit finalement, c'est peut-être la même chose qui se produit quand on est en train de conduire. Parce qu'on gère beaucoup d'éléments, justement, comme l'extrait tout à l'heure de Madame Peugeot, hein. À une intersection, on doit regarder, on doit analyser, prendre une décision, agir avec une machine, alors que ce soit un volant, un joystick, peut-être même une souris. Mais ce qui compte, c'est le processus cognitif. Et donc, on est parti de cette idée-là en faisant le pari que, avec un jeu vidéo, on pourrait réduire peut-être le temps nécessaire en véhicule.
Nécessaire en véhicule ou nécessaire à l'apprentissage de la conduite, par exemple, au passage du permis ?
Nécessaire au passage pour l'apprentissage, effectivement, du permis. On a des premières pistes aux alentours de 20% de réduction du temps nécessaire de leçon pratique.
Je citais en introduction ce petit jeu, puisque une partie de votre travail, à la fois de recherche et de l'application que vous lui donniez, c'est de, comme on dit, ludifier, de gamifier des pratiques sociales. Je citais cette mise en situation du MIT, Moral Machine, auquel j'ai participé extrêmement brièvement tout à l'heure, en jouant au hasard. Bon, évidemment, je n'y ai pas passé suffisamment de temps pour m'interroger sur le bien fondé de cette mise en situation-là pour fonder justement des réaction éthique d'un véhicule autonome. Cependant, le fait que la recherche à la pointe se serve du jeu vidéo ou de la mise en situation virtuelle, c'est tout nouveau ?
C'est à ce point-là, oui. Il y a eu des jeux de recherche scientifiques, des scientific game discovery notamment, où on fait des pliages de molécules, comme Fold It, où ils ont réussi d'ailleurs à trouver des protéines du cancer et donc à résoudre des problèmes de la science. Mais là, c'est vraiment des mises en situation assez intéressantes puisque c'est de l'expérience. Là, on essaie un peu de vous projeter vraiment qu'est-ce que ça serait si j'étais au sein de la voiture autonome et finalement jouer un petit peu le rôle, hein, par anticipation, mais est-ce que je programme la voiture de telle manière à ce qu'elle sauve quelle vie ? Alors je pense qu'évidemment après il y aura les questions avec l'assurance, avec qui est l'opérateur du système, etc. Mais de se projeter comme ça, et c'est une des forces du jeu justement, c'est de se projeter. Et dans les jeux de voitures, on se projette beaucoup, dans des belles voitures parfois.
Ça, c'est un ingrédient qui est extrêmement important, justement la projection, on va y venir. Lorsque vous dites se projeter dans des belles voitures, il y a un souci esthétique qui a toujours été présent dans l'histoire du jeu vidéo de voiture.
Il y a eu un... Alors toujours, peut-être pas toujours et encore, quand on regarde les toutes premières bandes d'arcade, l'esthétisme, il est autour du cabinet, c'est-à-dire de ce qui entoure l'écran. On travaille beaucoup la scénographie, on travaille les volants, on travaille les interfaces pour essayer de donner l'illusion d'être au volant. Et même les tout premiers jeux où lorsque vous regardez l'écran, vous voyez quelques pixels en deux dimensions s'agiter, mais vous avez des volants et vous conduisez un volant. Et c'est ça qui est très surprenant, c'est qu'il y a toujours cette invitation à conduire, à se projeter, à devenir quelque chose, à manipuler des voitures, à devenir conducteur, en tout cas, ou voire même pilote de F1, pilote de gros cylindrés, et ça reste assez un thème très fort, très présent, cet esthétisme de la voiture.
J'ai commencé par poser la question à chacun de mes invités depuis lundi, à savoir quelle relation ils avaient avec cette machine qu'est la voiture. Comment est-ce que vous la décririez, cette relation, vous ?
Moi, elle est purement utilitaire. J'ai pas un usage extraordinairement passionné de la voiture. C'est dans un usage de mobilité, mais je crois que je suis dans une tendance assez lourde aussi, hein, des générations un peu jeunes, sachant que l'âge moyen, je crois, d'un acheteur de voiture, c'est 55 ans en France. Une voiture neuve. Donc, les nouvelles générations, on est beaucoup plus sur des problématiques de déplacement, de mobilité, d'usage. Même si, quand on n'est pas à Paris, avoir le permis, c'est important. Conduire, c'est aussi synonyme d'émancipation, de liberté. La campagne, quoi, c'est fondamental. Mais après, ça reste un moyen de transport.
Dans plein d'émissions de télévision, on peut passer un coup de fil à un ami. Mmh. Donc j'ai passé un coup de fil à un ami.
Il est quelle heure, Noah, à Tokyo, là ?
Il est 22h50. Ouais, 23h, parce que...
Il est 23h. Est-ce que tu vas jouer au jeu automobile ce soir ?
Bah, c'est pour ça que j'étais en train de jouer.
Et tu joues sur quelle machine ?
Là, je joue sur une vieille PlayStation 3, quoi, sur Gran Turismo 6. J'étais en train de... Il y a un événement, donc un seasonal event, donc une event temporaire, dont les résultats ferment jeudi. J'avais pas encore fait de temps et je suis en train de poser mon temps. Je suis pour l'instant 88e mondial. C'est un contre-la-montre, là, en l'occurrence. Donc, en fait, c'est un tour sur la piste donc qui est réelle, qui est une piste assez mythique du circuit américain qui s'appelle Laguna Seca, qui appartient à Mazda, donc qui s'appelle aujourd'hui, qui a été renommé Mazda Raceway Laguna Seca, qui accueille bien sûr plein d'events à l'année, qui entre autres feature un virage légendaire qui s'appelle le corkscrew, donc le tire-bouchon. Et donc il y a le tour le plus rapide que tu puisses faire dans une certaine limite de performance, puisque la voiture est limitée pas par son nombre de chevaux ni par son poids, mais en fait elle est limitée par une espèce de coefficient qui prend en compte les deux, qui s'appelle le PP, donc Point Performance Points, qui est spécifique à Gran Turismo. Et donc c'est dans la limite de 500 Performance Points, tu peux utiliser la voiture que tu désires et essayer d'entrer le meilleur temps possible. Ce qui se passe, c'est que tout le monde utilise la même voiture finalement, puisque a priori une va dominer la catégorie. Et voilà, j'utilise la même voiture que tout le monde. Et je suis pour l'instant 88e sur quelques dizaines de milliers.
Alors Noah, qui vit à Tokyo, qu'on a appelé il y a quelques jours, qui fait partie d'une communauté de gamers qui s'appelle gtplanet.net, il vit à Tokyo, pourtant là il nous parle bien français, et pourtant on va faire un petit peu de traduction avec vous, Olivier Moko. D'abord, le jeu qu'il évoque, sur lequel il jouait il y a deux jours quand je lui ai téléphoné, Gran Turismo 6, c'est quoi ?
C'est une des plus grandes franchises du jeu de voiture sur console. Ça a commencé donc avec le premier Gran Turismo sur PlayStation, qui a été une révolution pour le monde de la console, puisque c'est un jeu qui se voulait simulation de course, et notamment de vraiment course automobile sur circuit, et avec une recherche de réalisme, de sensation de réalisme, parfois même de réalisme de la machine, jusque dans les temps de réaction, la traction, sur l'accélération, le freinage et la tenue de route. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il évoque qu'il n'y a qu'une seule machine, hein, qui domine les autres sur ce point spécifique de virage. Et c'est un jeu qui a eu un succès grandissant et qui est un des emblèmes, hein, du jeu vidéo de voiture. avec cette idée que c'est une des simulations les plus avancées, ou du moins ça l'a été pendant très longtemps, à tel point que certains constructeurs et ou pilotes se sont inspirés ou ont passé du temps sur Gran Turismo pour se préparer. Parce que la modélisation des circuits, notamment, est très réaliste, avec des relevés de points, des relevés topographiques assez impressionnants, ce qui fait que on n'a peut-être pas la maîtrise de la machine, mais déjà on fait du repérage. Et ça, c'est très important pour un pilote de passer du temps, savoir la courbe, comment elle s'appréhende, à quelle vitesse il doit l'appréhender, etc. Voilà, c'est pour ça que beaucoup s'y passent du temps. Et là, dans son cas particulier, le Seasonal Event, c'est une des évolutions aussi avec le online, c'est-à-dire en connectant les consoles, on peut créer des temporalités, des saisons, comme des saisons automobiles en fait. Et là, il est en train de participer à une saison automobile, et donc 88e joueur mondial, c'est bien.
Ça veut dire que c'est une forme de compétition. Quand il dit poser son temps, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse son temps, il a le droit à X essais, puis il faut qu'il arrive à faire le meilleur temps possible pour être enregistré, et à la fin, tous les joueurs du monde sont enregistrés, et on sort ce qui plaît beaucoup aux joueurs et qui plaît depuis tout temps, qui est le leaderboard, le classement du meilleur au dernier.
Et ça crée aussi une forme de temporalité sociale, puisque c'est aussi l'un des autres aspects de votre travail. C'est-à-dire, ils sont de par le monde, alors lui à Tokyo, mais on imagine des joueurs de Gran Turismo 6 plaçant leur temps ou posant leur temps lors de cet événement. Et donc, ils vont tous attendre à un moment donné la sortie des résultats.
Ils vont tous attendre et puis même ils vont se structurer en équipe, c'est-à-dire qu'ils vont rejoindre des écuries virtuelles. Vous évoquiez GT Planet, c'est une des plus connu, et c'est hyper intéressant de voir justement à travers un jeu, on peut se dire c'est qu'un jeu, non, c'est un ensemble de pratiques en fait, de pratiques sociales. Alors oui, il y a une médiation par un écran, un jeu, etc., mais c'est avant tout des gens qui partagent une passion en commun autour à la fois du jeu, à la fois de l'automobile, à la fois de la course, qui sont encore des choses un peu différentes, mais qui se réunissent, et comme les amateurs peuvent aussi faire de la course amateur, mais c'est un peu plus cher malgré tout, hein, de louer une voiture, l'entretien, etc. Là, on peut se donner une passion assez proche, en tout cas qui s'inscrit dans cette ligne-là. Et donc, il y a une communauté qui se crée, très clairement. Des communautés de joueurs, et en plus, tous les services en ligne, ils l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils font la saison, pour que les gens ne décrochent pas, pour qu'ils s'entraînent, qu'ils continuent à s'améliorer, et donc, finalement, les garder dans le jeu le plus longtemps possible.
Parce que, est-ce que c'est payant? Est-ce qu'ils ont un gain au fait que ces joueurs-là soient accrochés à l'idée du tournoi, à l'idée de se retrouver, à l'idée de la compétition?
La grosse difficulté dans tous les jeux, c'est la compétition entre les produits. C'est-à-dire que, surtout sur le jeu de voiture, là, il y a un renouveau. Microsoft, d'ailleurs, a bien compris quand il a décidé, lui, de faire sa propre licence Forza. C'était pour attaquer en frontal Gran Turismo. Et ça crée de la communauté, ça crée de l'image de marque aussi forte. Et c'est très important pour eux. Et donc, on veut garder son public d'itération en itération, du 5 au 6, du 6 au 7, etc. On ne veut pas qu'il y ait de fortes déperditions. C'est pareil pour les jeux de foot, c'est pareil pour toutes ces choses-là. C'est très important de garder les joueurs. Et on voit aussi, on le voit peut-être dans les jeux de tir ou les jeux de rôle, qu'il y a des migrations en fait, d'équipes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, à un moment donné, qui peuvent délaisser un jeu, partir et aller sur un autre jeu massivement. Et en fait, ils ont un effet d'aspiration et ça dépeuple l'univers. Et donc, si dans Gran Turismo, vous n'avez pas ces équipes-là, ces écuries qui se challengent entre elles, à un moment donné, le mode online tombe. Si le mode online tombe, il faut se recentrer sur du mode tout seul en solo et c'est pas forcément le plus intéressant dans ce cas de figure. On perd en expérience.
Vous parlez du jeu de football, on en a parlé ici la saison dernière justement, de ce grand succès, de cette grande pratique du jeu de football en ligne ou devant sa console chez soi. Est-ce qu'en masse, il y a une équivalence entre à peu près les joueurs s'adonnant au jeu de voiture et les joueurs s'adonnant au jeu de football?
Ça fait partie, de toute façon, les jeux de voiture ou les jeux de foot, c'est les jeux les plus vendus. Voilà, c'est très clairement les deux genres qui dominent, hors les jeux qui sont vendus et les consoles, mais c'est vraiment ce que les gens pratiquent beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Parce qu'il y a des connexions avec des pratiques sociales.
Le jeu de voiture, c'est très vieux, c'est un des plus vieux, des genres les plus vieux. Et le jeu de tir, c'est certainement le genre le plus ancien. Il y avait déjà, dans les années 70, des jeux de voiture, dont un jeu de voiture qui était inspiré de La course à la mort, un film justement de course, mais où on écrase les piétons. Et en 67, Def Ray sort, ça crée une polémique. Et ensuite, on continue les jeux de voiture, Super Off-Road, que ce soit Night Driver, que ce soit... Enfin, on arrive à la fin des années 80 et Monaco Grand Prix. Et là, ça y est, on est en vue intérieure, on est dans le cockpit, on conduit une Formule 1 sur le circuit de Monaco. Et c'est le début, en fait, de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, on va vers la simulation, on est capable de vivre la vie d'un pilote, en fait.
Les premiers jeux automobiles que j'ai joués, je les ai joués quand j'étais vraiment enfant encore, qu'il n'y avait pas encore vraiment de jeux très intéressants sur les systèmes de salon. Pour les gens de ma génération, donc je suis né en 1980, le premier jeu de course a priori vraiment mémorable pour les enfants que nous étions, ça va être quelque chose comme Outrun de Sega. C'est un jeu vidéo qui est pas mal de succès en arcade. C'est une vue de derrière, c'est une Ferrari Testarossa, tu es un Californien blond avec sa blonde à côté. En fait, c'est une course à checkpoint, en fait. C'est un temps imparti pour atteindre un point. Si tu l'atteins, t'as du temps supplémentaire pour atteindre le checkpoint suivant.
Qu'est-ce qui te plaisait à l'époque dans ce jeu-là ?
Il y avait quand même une composante rythmique assez forte, j'imagine. De toute façon, la frénésie était quand même de mise dans tous les jeux populaires à l'époque, que ce soit les Invaders ou les genres de choses. Il fallait donc bourriner un maximum les deux boutons qui t'étaient généralement proposés. Même si donc le Outrun, donc le jeu dont je te parlais de Sega, était très arcade, avait absolument aucune, très peu de réalisme au niveau des sensations de conduite et de vitesse. Il avait quand même cette particularité par rapport aux autres jeux de proposer une approche un peu différente au bourrinage de boutons. Il fallait parfois un petit peu ralentir, effectivement, choisir une trajectoire, enfin bref, une position, un positionnement sur l'écran, puisqu'à l'époque, c'est l'écran qui défile, en fait. Tu vois, la voiture ne bouge pas, la voiture est toujours presque immobile, quoi. Ça faisait appel à des qualités un peu différentes ou des spécificités un peu différentes des jeux, donc, où il fallait appuyer très vite et avoir d'énormes réflexes. De mémorisation du parcours et des obstacles qui viennent et de l'itinéraire privilégié.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richaud.
Olivier Moko, on entend à l'instant Noah dire se souvenir de ses premières pratiques de jeux vidéo enfant. Il parle de Outrun sur Sega. C'est un jeu que vous n'aviez pas cité parce que ça arrive encore après ce Grand Prix Monaco.
Ça arrive avant. C'est un jeu, oui, qui en plus c'est toute la cool attitude californienne. Donc ça, c'est quand même très important.
C'est-à-dire parce que c'est tout un récit. On parlait beaucoup avec le designer Jean-Louis Fréchand du récit lié à l'expérience automobile.
Là, c'est le. Il y a un côté effectivement rêve américain, mais contemporain tel que Hollywood l'a vendu dans les années 80, très coloré, avec beaucoup de mèches. Hein. Il évoque, c'est un brun d'ailleurs avec une blonde.
Non, mais il s'est rêvé blond.
Voilà. Mais c'est assez intéressant parce que vous arpentez les routes de Californie, enfin qui sont censées être des routes de Californie. D'ailleurs, je crois qu'on commence avec du San Francisco et on finit à LA, on traverse le désert. Donc il y a le côté exploration, paysage, voyage. Et en même temps, ce qui est évoqué, la frénésie marche très bien parce que vous avez des lignes qui s'alternent de couleurs qui vous font un effet stroboscopique assez hypnotisant. Et donc c'est un jeu qui est très rapide, c'est un jeu où on travaille beaucoup sur le réflexe et qui a beaucoup beaucoup plu. Ouais, c'était une grande révolution, très arcade comme on dit, très très ludique.
Ça veut dire quoi très arcade ?
Très arcade, c'est presque par opposition à la simulation, c'est-à-dire que là on simulait rien du tout de mécanique, hein, mais on vous faisait vivre la vie d'un espèce de golden boy riche au volant de sa voiture et à arpenter comme ça toutes les routes.
Mais donc dans l'expérience du joueur ou dans l'expérience du jeu, on est sur des choses qui sont très réflexes. Quand Noah parle de composantes rythmiques et de bourriner la manette, on est sur des plaisirs de jeu qui sont liés pas tant au fait de conduire une voiture pour de faux, mais quoi alors ?
On est sur des jeux de réflexes moteurs, d'évitement gauche, droite. À titre de comparaison, on a exactement ces jeux-là sur mobile, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les runners, c'est-à-dire les jeux où l'on court. Où il y a quelque chose qui court, que ça pourrait très bien être une voiture. Là, c'est souvent dans les...
Le serpent, par exemple, sur Nokia ?
Alors, le serpent non, sur Nokia, c'est plus un jeu de labyrinthe, stratégie réflexe. Mais non, c'est plus les jeux, vous savez, où on appuie sur un bouton, on va à gauche, on va à droite, on évite des choses. C'est exactement la même mécanique de jeu qui a retrouvé un gros succès d'ailleurs sur téléphone portable. Mais on est plus, on évite des pièges et oui, on fait qu'accélérer. C'est-à-dire que il y a ce côté effectivement accélération qui crée un rythme physique, hein, qui crée de la pulsation. Mais avant toute chose, on essaye surtout de ne pas sortir de la route.
C'est presque un rapport assez basique avec ce qui se passe à l'écran. Néanmoins, Noah dit que c'est l'écran qui décide encore à ce moment-là, au moment d'Outrun sur Sega.
Il y a un côté roller coaster. Il y a un côté grand manège. C'est-à-dire, c'est du grand manège finalement. Vous êtes aux commandes d'un wagon qui va défiler dans un grand 8. Voilà, coloré, mais vous avez un peu une petite emprise. Voilà, vous allez essayer de rester sur les rails, mais ça reste la sensation. Là, on joue vraiment sur la sensation physique, de vitesse, presque de vertige, très clairement. Ce qui est une des fondamentales du jeu, une des composantes fondamentales, où il y a beaucoup de jeux sur le vertige, hein, tous les jeux d'attraction, même jusqu'au jeu du foulard, c'est les jeux de vertige où on perd un peu le contrôle. Et là, on est entre deux, je perds le contrôle, mais je maîtrise en même temps, donc il y a une tension qui est créée dans le corps et dans l'esprit qui est assez intéressante justement.
Et qui travaille et qui est aussi associé à ce que vous disiez de ces bandes de couleurs. Évidemment, moi, on en parlera tout à l'heure, mais dans les choses les plus évoluées, par exemple ce Forza Horizon 3, je comprends, moi qui ne suis pas du tout joueuse, le caractère hypnotique et le fait qu'on puisse passer, je ne sais pas si on l'a gardé ce moment d'interview, Noah parle des milliers d'heures qu'il a au compteur sur Gran Turismo, on a du mal à voir où est-ce que ça peut se loger dans une vie sociale à peu près normale. C'est ça, c'est la puissance hypnotique du design, de la relation à l'écran.
Il y a la capacité à se projeter, je crois qu'on est vraiment là dans ces Forza et Gran Turismo, c'est l'individu qui se projette dans un autre monde, c'est dans quelque chose dont il a une emprise réelle et qu'il est capable de contrôler. Même si, effectivement, l'art du design, c'est d'offrir ce terrain de jeu. C'est d'offrir la possibilité de jouer. C'est avant toute chose ça, c'est donner la possibilité de faire quelque chose quand on fait un jeu. Et là, c'est des grands espaces, c'est beaucoup d'éléments qui sont réglés, de finesse, et donc on crée vraiment la possibilité à des joueurs de se l'approprier. Souvent, un des adages, c'est facile à prendre en main, mais très difficile à maîtriser. Et ça, ce sont des jeux qui sont faciles à prendre en main. On peut finir une course. Par contre, pour arriver à votre degré de maîtrise, comme dans Gran Turismo 6, il faut des heures et des heures de pratique. Après, c'est une vie sociale, que ce soit finalement autour d'une console, micro-casque, ça reste une vie sociale aussi, dans tous les cas.
Tu as beaucoup joué aux jeux vidéo tout confondu. Qu'est-ce qui fait que tu serais particulièrement fidèle aux jeux de course automobile ?
Je ne peux pas me vanter d'avoir été vraiment fidèle à ce genre. J'y suis revenu assez récemment, suite à la naissance de mes enfants. Ma femme m'a interdit de jouer à des jeux où les gens se trucident la tronche à l'écran. Pour elle un peu, j'imagine, mais pour les enfants aussi, quoi, pour éviter qu'ils voient donc du sang et des armes à feu sur l'écran familial. Et donc, à ce moment-là, j'étais un peu perdu. Je n'avais plus trop les jeux que j'avais énormément joué ces dernières années. Et je suis retombé dans le jeu de course, puisque en fait, j'avais jamais expérimenté le jeu de course en ligne jusqu'à donc il y a 4-5 ans, quoi, on va dire.
Alors, j'imagine qu'entre ce que tu racontais au départ des années 80, de ce premier jeu automobile sur Sega, et ce que tu as pu retrouver bien des années après sur ta console familiale à Tokyo, les choses avaient changé. Qu'est-ce que tu as retrouvé il y a 4-5 ans à l'écran ?
Bien sûr, j'ai surfé sur la vague Mario Kart de la Super NES, qui est aussi un jeu de course, bien que ce soit pas un jeu de course. Enfin, Mario Kart, c'est un jeu de cartes avec les personnages de Mario. C'est sorti en 1991 ou 92, donc c'est donc 5 ou 6 ans après OutRun de Sega, qui donc était un jeu d'arcade à la base, mais qui aussi était distribué sur les consoles de salon de Sega. Donc Mario Kart apportait une dimension différente puisqu'il y avait une dimension en fait de deux joueurs simultanés sur console, en même temps sur le même écran avec un écran splitté, ce qu'on appelle splitté, un écran coupé en deux. Il y avait une énorme dimension en fait de compétitivité et aussi même d'armes et d'options possibles. En fait, tu avais des items que tu pouvais récupérer et qui te permettent en fait d'interférer avec le déroulement normal de la course ou directement d'interférer avec tes adversaires, en fait, tes concurrents, quoi.
Donc on revient à ce que tu retrouves il y a 5 ans sur l'écran du jeu vidéo dans le salon familial à Tokyo. Ça ressemble à quoi ?
Bon, les premières choses, c'est que l'environnement est digitalisé et l'environnement est modélisé en 3D, quoi. Ça veut dire que tu as un environnement très réaliste. Bon, là, en l'occurrence, je te parle donc des jeux que j'ai joués il y a 4-5 ans, donc ça va être Gran Turismo 5 et 6. La plupart des circuits, en fait, ont été scannés au laser par des voitures qui passent sur la piste, qui détaillent ainsi toutes les aspérités et les variations d'élévation, en fait. Puisque, en fait, une course est absolument, enfin, un circuit est absolument pas plat. Il y a des micro-variations d'altitude à tous les endroits. Quand je te parle d'OutRun, c'est en 2D, c'est totalement plat, quoi. Il n'y a rien, il n'y a absolument aucun changement d'altitude et aussi aucun impact, si tu es en montée ou en descente, bien sûr, sur la façon dont la voiture se comporte en virage, etc. Effectivement, certainement, les changements les plus marquants des dernières moutures de ces jeux sont accrédités au moteur physique, en fait, qui te permet vraiment d'avoir un ressenti assez proche. Pas vraiment ressenti, mais c'est plutôt une impression. Tu sens le comportement en fait de la voiture qui va pas être effectivement tout à fait identique sur un virage avec une cambrure identique. S'il est en montée ou en descente, l'appui sera différent, par exemple, et donc les vitesses de passage seront différentes.
Mais justement, tu parles de sensation ou de ressenti, mais ça passe par quoi ?
Alors bon, c'est bien sûr très limité au niveau de la console de salon, puisque la plupart des gens en console de salon n'utilise pas d'accessoires, donc de périphériques très onéreux qui te permettent d'avoir une immersion comme une borne d'arcade. Tu sais, donc quand tu vas dans une salle d'arcade, aujourd'hui, si tu trouves un jeu de course très récent, tu te retrouves dans un siège baquet qui est très proche d'un siège de course, qui va certainement être dynamique. Ça veut dire qu'il va bouger.
Comme un Futuroscope à l'époque.
Voilà. Exactement, voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est donc un siège qui est branché sur le chip du jeu, en fait, et qui te permet donc de ressentir physiquement des variations d'altitude, hein, juste bien sûr, puisqu'il n'y a pas de. T'auras pas de. Le composant principal de la course automobile en vrai, c'est donc la gravité et les forces centrifuges, enfin centripètes et centrifuges, qui sont appliquées à ton corps, puisque quand tu es dans une voiture qui fait un virage à 100 à l'heure, ton corps est bien sûr projeté vers l'extérieur, enfin attiré vers l'extérieur. Bon, ça, bah, tu l'auras jamais dans un siège dynamique puisque tu restes assis au même endroit. Mais, en fait, il va t'incliner et berner ton oreille interne assez pour que tu puisses sentir que, en fait, ton corps est projeté vers l'extérieur. Mais, en fait, tu fais que pencher, quoi. Donc, dans le setup de base du joueur de salon, la manette, qui est quand même l'interface privilégiée de 95% des gens qui jouent sur les consoles puisque la souris clavier reste quand même l'apanage principalement des joueurs PC. En fait, la seule chose, la seule sensation physique que t'as, c'est les deux petits moteurs et les deux petits lestes qui sont dans la manette et qui vibrent, qui permettent de ressentir les vibrations.
Tu sens les chocs, par exemple. Tu sens la manière dont, voilà, si une voiture se pose brutalement sur le parcours, sur le bitume, tu sens des chocs.
Voilà, tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, donc il y a un peu plus de variations certainement dans l'intensité des moteurs et ce genre de choses. Donc, par exemple, si au démarrage, tu appuies trop fort, que tu perds le grip et donc que tes roues patinent, tu vas sentir cette vibration très légère, en fait, comme si l'arrière de la voiture tremblait un peu, ce qui se passe en réalité.
Ce qui se passe en réalité. Et c'est peut-être ça qui est le plus frappant dans ce troisième moment de cette discussion avec Noah et ses retrouvailles avec le jeu de voiture, parce que sa femme lui interdit de mettre à l'écran devant les trois enfants de la famille des personnes qui se font déchiqueter suite à des coups de feu. Ce qui se passe en réalité, on sent bien qu'il y a plus que la projection dont vous parliez, qui est essentielle, Olivier Moko, dans le jeu de vidéo de voiture, la sensation
qui intervient. Qu'est-ce que ça change et jusqu'où ça va?
Avec ces périphériques, la sensation, oui, c'est. Alors, il y a plusieurs manières de faire ressentir la vitesse aux joueurs. Il y a premièrement des choses très simples comme l'angle de caméra qui, à la vitesse constante, vous allez avoir des angles de caméra plus ou moins larges. Et donc, comme vous voyez plus de choses à l'écran qui défilent, ça donne la sensation d'aller plus vite. Donc déjà, ça, c'est des premiers subterfuges qu'on met en place. Et ensuite, vous allez avoir effectivement tout le travail sur les périphériques, dans ce qu'il dit, un volant pédalier, grosso modo, volant de jeu vidéo, qui ont des moteurs et donc où ils vont simuler la route, ses aspérités, le raidissement de la direction notamment. Et puis si on veut aller encore plus loin, et là on va de plus en plus vers des simulateurs, des machines, en simulant les voitures, on peut mettre sur vérin. Il y a des sociétés qui font ça, D-Box, elles feront des petits vérins, et pour quelques milliers d'euros, vous pouvez avoir un système qui fait bouger votre siège, pour créer des sensations d'accélération, de freinage, pour berner l'oreille interne. Maintenant, il y a aussi une autre perspective qui apparaît, c'est l'arrivée des casques de réalité virtuelle. Et c'est vrai que de jouer à un jeu de voiture avec un casque de réalité virtuelle, c'est quelque chose d'assez troublant.
Vous l'avez fait?
Ouais, je l'ai fait. Nous, on essaye, on réfléchit, on fait des petits prototypes là-dessus. Ça se change complètement parce qu'on a l'impression de conduire, d'être vraiment dans une voiture. Et ça, c'est très, très, très perturbant, ce qui fait que tout ce que vous percevez, là, vous le revivez. Et parce que ça travaille sur l'oreille interne, sur le fait qu'on peut déplacer la tête librement, comme dans un véhicule. Et donc, une sensation de... On est un peu isolé par rapport à un environnement, finalement, qui est assez hostile. Et je suis assez convaincu que des jeux de voiture, notamment de F1, dans lesquels vous allez avoir votre adversaire derrière, en casque de réalité virtuelle, vous allez sentir la pression de l'adversaire, vous allez la vivre. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, parce que c'est plus que du petit mouvement pour berner, c'est la présence de l'autre, même s'il est virtuel. Là, la présence avec les casques sont assez fascinants. Après, ça fait mal à la tête assez vite.
Est-ce que ça diminue, si on en revient à l'idée même du jeu, sans forcément le relier avec le jeu vidéo ou avec le jeu vidéo de voiture, est-ce que ça diminue la force de projection qui est nécessaire à tout jeu pour celui qui joue, ces nouvelles technologies?
L'effort peut-être, ouais. Il y a encore un côté d'aspiration encore plus grand. C'est clair que les casques, parce qu'on s'isole, parce qu'on travaille sur l'oreille interne notamment, fait que on perd à un moment donné son repère corporel, on est vraiment projeté. Après, je pense que c'est sincèrement une question d'éducation à la technologie. On avait, au tout début du siècle, certains prédisaient que quand on ferait des voyages en train, l'âme resterait en arrière parce que le corps irait plus vite. Bon, il y a un peu ce côté fascinant. Mais comme toute chose, on va s'habituer, puis qu'on aura joué à ces jeux sur des casques, on recherchera encore plus. Il y a une espèce de craving, si on parlait en termes d'addiction, qui se met en place. Donc on recherche toujours de nouvelles technologies pour avoir cette sensation.
Il y avait aussi, dans ce que disait ou laissait entendre Noah, une finesse de plus en plus grande sur le rapport physique au moteur. Quelle est la collaboration entre les grosses boîtes qui sont conceptrices de jeux vidéo et l'industrie automobile elle-même?
Alors les toutes premières collaborations sont des collaborations, on va dire, graphiques, c'est-à-dire que généralement les constructeurs maintenant sont capables de vous fournir les fichiers 3D industriels que ensuite vous allez remouliner parce que vous pourrez pas faire tourner ça sur des consoles, il y a beaucoup trop de polygones, mais on vous donne
de vous les fournir.
Ils nous fournissent le fichier 3D
gratuitement.
Oui, mais gratuitement. Après, ça dépend. Nous, oui, mais pour d'autres, je sais pas. Et parfois, c'est des licences. Non, chez Ferrari, c'est le droit d'entrée, c'est de mémoire 1 million pour pouvoir avoir ces véhicules-là.
À l'écran. Si on veut des Ferrari à l'écran et avoir le dessin de modélisation.
Voilà, ça dépend de la puissance de la marque, ça dépend de la stratégie de la collaboration, du partenariat. Donc, il y a des droits d'accès. Mais ensuite, une fois que la collaboration est faite, on vous donne les blueprints, on vous donne tous les éléments techniques pour que les modéleurs et donc les graphistes puissent la faire le plus proche possible. Ça, c'est très important. Mais en fait, on triche toujours. Pour que ça soit le plus proche possible, on triche. C'est-à-dire que si vous faites une simulation pure et dure, au millimètre de tout, ça marche pas bien. Parce que vous êtes face à un écran, vous êtes face à des périphériques de contrôle qui sont pas à la réalité, donc ça marche pas bien. Donc on triche surtout. Par exemple, nous on fait beaucoup d'analyses de jeux justement pour travailler sur nos sensations de vitesse, etc. Et on s'est rendu compte que dans les jeux de course, notamment les Forza Horizon ou Drive Club, les 100 premiers kilomètres, en fait, quand vous franchissez un virage à 100, affiché au compteur dans le jeu, c'est pas du tout la réalité. Vous le franchissez pas du tout à 100, vous le franchissez à 40. Et ce qui fait que tout de suite, on vous crée des courbes d'accélération un peu factices. Mais c'est important, parce que ce qui compte, c'est la sensation, effectivement. Après, les degrés de modélisation, les modélisations pures et dures, ils travaillent beaucoup plus avec des gros simulateurs industriels. Mais ça, c'est un autre usage, c'est-à-dire pour essayer de voir comment, grâce à des technologies numériques, on pourrait simuler le comportement d'un véhicule. Et d'ailleurs, je crois que la Alpine de Renault a été faite uniquement numériquement. Ça a été travaillé en collaboration avec des outils issus du jeu, etc. Ils n'ont pas fait de prototype physique.
D'ailleurs, hier, on parlait justement de l'importance du design, de l'importance de l'image, de l'importance du récit qui est lié à l'usage de la voiture. Ça veut dire que l'industrie regarde ce qui se fait tout le temps du côté du jeu vidéo, des innovations, des nouveaux scénarios.
Ah mais très clairement, une des grandes avancées, c'est tout ce qui est interface. Un jeu vidéo a toujours eu des interfaces en deux dimensions, des boutons, vous indiquez vos jauges, la direction, différents. Et on se rend compte de plus en plus qu'on a certains de mes étudiants qui sont embauchés chez certains constructeurs automobiles pour réfléchir à des interfaces en deux dimensions. Est-ce qu'on on déporte par exemple le compteur sur le pare-brise, comment, toutes ces choses-là, on travaille beaucoup là-dessus. Il y a des liens parce que l'industrie jeu vidéo, c'est une industrie, fondée sur le rapport à une image, à des signes à l'écran qu'on manipule. Donc, c'est vrai que pour des constructeurs automobiles, il y a ces liens forts, très clairement. Hello, I'm a salesman, sort of giant. I sell Molly and Mary and other various items. One time, one guy came to where I'm residing, and I didn't invite him. So instead, trying to fight him, I got violent. Long story short, he's not breathing. For some reason, I liked it, and it was really exciting. Couldn't stop the addiction, and the irony is, a couple junkies went missing, and I know right where they're hiding. Dope in the back, pretty bitch on the side. I sell dope in the back. If you tryna get high, dope in the back, pretty bitch on the side. I sell dope in the back. If you tryna get high, dope in the back, pretty bitch on the side. I sell dope in the back. If you tryna get high, dope in the back, pretty bitch on the side. I sell dope in the back. If you tryna get high. Poured into my fortress. Found some lipstick, a couple corpses. Bitches was hard and they couldn't reach the alarm. I'm ripping sockets out like I had fucking problems with arms. And they found a couple portraits on the porch. Hope they don't check up under the floor. It's bodies and hotties. And we was raging, engaging. Shotty hit so many bitches. I was pimping like Scotty. I'm a bull. Red pissed me off like that lipstick position when she kissed me. So I bit them off, they was too soft. I'm a wolf and a designer, Mexican skin, cotton, leather, my wool. And most people like flying kites, riding bikes in the woods, making cake cause it's good. I mean, I would if I could, but I like playing dress up. And next match, sorry, I'ma fess up. You want getting your kids back. Dope in the back, pretty bitch on the side. I sell dope in the back. If you tryna get high, dope in the back, pretty bitch on the side. I sell dope in the back. If you tryna get high, dope in the back, pretty bitch on the side. I sell dope in the back. If you tryna get high, dope in the back, pretty bitch on the side. I sell dope in the back. If you tryna get high.
Salut à tous, c'est Kijuki, je suis très contente de vous retrouver à nouveau en vidéo. Je vous propose cette fois-ci un guide spécial vitesse, le guide ultime de la vitesse en adaptant donc le comportement de la voiture. Je vous ai remis des pages du site, je vous invite fortement à les lire, c'est très important, donc à choisir entre le comportement drift ou grip. Ça passe par l'aide au freinage, le braquage, la nitro. Voilà, je vous invite à relire toute cette partie sur le site internet de Need for Speed parce que ça compte énormément aussi, ça aura de l'impact sur le gameplay de votre voiture. Ensuite, je passe sur la partie performance. Lisez bien aussi la partie dédiée, donc avec notamment le filtre air, le collecteur d'admission, le système d'alimentation, puisque toutes ces parties, en fait, vous devrez les acquérir avec les points de réputation. Et donc forcément, il faudra faire des choix au début, puisque vous ne pourrez pas vous permettre de tout acheter. Avec une priorité, je recommande sur le bloc moteur et le système de nitro. faire également attention aussi aux collecteurs.
Ce n'est ni la voix d'une personne qui fait langoureusement la météo, ni celle d'une hôtesse de l'air, c'est celle d'une gameuse sur Need for Speed 2015 et qui fait ce qu'on appelle une sorte de tutoriel sur YouTube pour nous donner plein de conseils, si nous aussi nous sommes des joueurs de jeux vidéo, de voitures, et lesquels exactement ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle nous propose de faire et qui aura, dit-elle, un impact fort sur notre gameplay ?
Là, elle est en train de décrire en fait toutes les fonctionnalités que vous avez, tout ce que le joueur peut faire pour modifier sa machine et tirer le plus parti des potentiels. Donc que ce soit la nitro, que ce soit les transmissions, etc. En fait, ce qui est intéressant dans la Need for Speed, un des virages qu'ils ont pris...
Donc c'est un autre jeu hein, que tous ceux que nous évoquions précédemment.
C'est un jeu un peu plus, on va dire, arcade. À la base, c'était un jeu de course-poursuite entre policiers et chauffeur, et progressivement, il y a eu des épisodes où ils alternent, notamment un épisode underground où on faisait du tuning. Et ça, ça a été très important parce que c'est un autre rapport à la voiture, c'est-à-dire qu'on le modifie, on est capable de changer son véhicule, d'impacter directement sur ce qu'elle peut rendre comme puissance. Voilà, donc elle donne ce tuto.
Et alors justement, tout au début, on entendait Noah dire que finalement tous les joueurs de ce Gran Turismo 6 qui participaient au même événement saisonnier choisissaient la même voiture. Ça veut dire que en fait, c'est quoi ? C'est seulement le plaisir de la bricoler un peu sa voiture, ou ça a un réel impact sur la manière dont on va faire un temps sur un circuit, dont on va jouer, dont on va avoir une expérience particulière ?
Non, ça aura un réel impact. C'est-à-dire que, en fait, dans un jeu vidéo, c'est simple. On va d'un point A à un point B. C'est parcourir l'espace, le jeu vidéo. Et là, dans les jeux de voiture, on vous donne un véhicule, au sens en plus le plus littéral possible. Et donc, ce véhicule-là, il a des propriétés. Peut-être aller plus vite, meilleure adhérence. Et dans le cas de GT6, il y avait un véhicule qui avait des propriétés meilleures que les autres, tout simplement.
Donc, tout le monde le prenait.
Ben oui.
Comme tous les salmômes, je n'en fais qu'à ma tête. Je roule à contresens, me précipite, tout par choc sorti, contre mes vis-à-vis. Avec quel risque ? Aucun. Mes bolides sont incassables et j'ai même été récompensé de quelques points de carambolage. J'évite une voiture, frôlement géniale. Des sous rentrent dans ma caisse. Je la touche, échange de peinture. Un petit billet s'ajoute quand même. Le monde de Forza Horizon 3 ne tourne pas rond. Les routes les plus dangereuses sont dénuées de toute limitation de vitesse. Les radars automatiques mesurent les records, les rues sont vides de piétons, les routes de toute voiture de police. Tiens, voilà l'Australie, elle est à toi, fais-en ce que tu veux. Voilà le seul message que semble répéter Forza Horizon 3, cette simulation automobile papa-poule et ultra-permissive, qui a extrait toutes les contrariétés du monde réel pour ne garder que le meilleur. Dès la scène d'introduction sur fond de soleil couchant, dès les premières notes entraînantes, dès les premières paroles « Take me away », le jeu de Turn 10 se présente comme un hymne à l'évasion, vrombissant, musical et permissif. Sa philosophie si particulière, si contraire à l'habituel parti pris sportif et compétitif du genre, s'exprime dès la première prise de volant par un détail significatif, l'absence de chronomètre. Bien sûr, de multiples épreuves le réintroduiront, ainsi que des concurrents, une grille de départ, des points de championnat, mais rien n'oblige à les suivre. Pris pour lui-même, Forza Horizon 3 est ce jeu de course qui ne vous reprochera jamais d'être en retard, ni d'avoir raté un virage, ni même d'avoir abîmé votre dernière acquisition haut de gamme. Flâner, rouler, déraper, sortez de route si vous le voulez, chef-d'œuvre de massage narcissique, le jeu vous pardonne tout, vous félicite pour ce que vous cassez, vous offre des récompenses pour vos expérimentations. Et quand votre imagination manque, c'est lui qui vient à votre rescousse, vous suggérant autant d'activités aussi improbables que goûtues. Traverser une plage en buggy, partir en dérapage sans fin dans les rues nocturnes de Surfer's Paradise, poursuivre un hélicoptère, faire la course avec un train, conduire une classique des années 30, ou un véhicule tout-terrain futuriste tout droit sorti de la série Halo.
Dans la voix de Romain de Bec de Lièvre, on entendait les mots du journaliste William Auduro qui chronique les différents jeux vidéo pour le journal quotidien Le Monde. Ici, il parle assez bien, je trouve. En tout cas, enfin, moi, je n'ai jamais joué à ce jeu vidéo-là, mais ça donne assez envie d'essayer. D'un jeu qu'on a évoqué tout à l'heure, Forza Horizon 3, où... En tout cas, dans un premier temps, nous dit-il, le chronomètre disparaît. Dans mon introduction tout à l'heure, Olivier Moko, je disais, le principe du jeu vidéo est assez classique, il faut aller plus vite que son partenaire. Alors quoi, le jeu vidéo de voiture de 2016 éliminerait ce principe directeur, à savoir, il faut aller plus vite que les autres?
Je crois que le jeu vidéo de 2016, il montre bien qu'il y a plusieurs jeux de voiture. Ça, c'est ça qui est assez chouette. Et Forza est vraiment l'exemple même. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est un spin-off de Forza qui est le jeu de simulation. C'est un peu le petit frère du gros jeu de simulation. Là, c'est presque du jeu hollywoodien. C'est-à-dire, c'est la course-poursuite de Bullitt si on avait envie. Ça serait du road trip finalement, modélisé et proposé, où on va vraiment évoluer. C'est une des fonctionnalités de l'exploration du jeu qui est vraiment centrale dans les jeux vidéo. Beaucoup de jeux vidéo proposent de s'évader, de découvrir, d'arpenter des horizons. Et là, effectivement, c'est toute l'Australie. Cette Australie-là qui est modélisée de manière assez magnifique, avec en plus plusieurs véhicules pour s'amuser, parce que vous allez explorer les routes, mais sortir hors des sentiers. Et c'est ça, la promesse souvent des jeux pendant très longtemps, c'est il y a quelque chose après la route.
Il y a quelque chose après le circuit balisé
voilà,
du kart.
Et là, pour une fois, il y a quelque chose après la route. Et on vous invite. Et déjà, dans le précédent, on faisait des courses à travers les vignes, c'était assez dingue. Et là, on est dans quelque chose d'encore plus extraordinaire. C'est pas des jeux de simulation automobile, en fait. C'est peut-être l'esprit d'évasion initiale de l'automobile qu'ils ont capté. C'est ça qui est assez fort, qui finalement, c'est ce que l'industrie promettait, hein, quelque part. La révolution automobile, c'était que chacun puisse avoir une mobilité non contrainte. Et là, on renoue avec cet imaginaire. Et c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est pour ça aussi que ça plaît, parce que c'est cet imaginaire-là qui plaît.
D'où le tien, l'Australien, à toi, fais-en ce que tu veux. Quand il parle d'un jeu vidéo permissif, d'un jeu vidéo papa-poule, c'est quoi ?
C'est un jeu qui prend soin du joueur, c'est clair et net. C'est-à-dire qu'on vous accompagne tout le temps, on vous dit quoi faire, et puis voilà, si on ne sait pas quoi faire, on vous propose des choses à faire. On vous dit aussi d'aller un point A, un point B, mais vas-y comme tu veux, c'est pas grave. Dans certains jeux, vous casabillez.
Prends le temps que tu veux aussi.
Oui, prends le temps, vraiment prends le temps que tu veux, va à ton rythme, explore à ton rythme. C'est assez proche finalement d'un mode. J'aurais presque tendance à dire à la GTA, c'est-à-dire à un moment donné...
Donc un autre jeu.
Voilà, un autre grand jeu qui est plus connu peut-être dans son côté gangster, mais où la conduite a une place énorme, c'est-à-dire on parcourt une île comme ça dans le 5 et on traverse des paysages sublimes, parfois on sort des sentiers battus et c'est eux qui ont initié le genre.
Et on le fait en voiture.
Et on le fait en voiture, en avion, en vélo, en scooter, en n'importe quoi dans GTA. Là on s'est concentré sur la voiture dans Forza Horizon. Mais c'est quelque chose qui est très très bien fait, quoi. Qui reprend à la fois les codes du jeu vidéo de voiture classique de course, hein, tout en empruntant à d'autres jeux et qui propose une expérience assez unique. Ce qui fait que tout le monde peut s'y retrouver. On peut faire des courses, hein, on peut se challenger. Mais il y avait un jeu comme avant qui avait été fait notamment par des Français, hein, c'était Test Drive. Toute la licence Test Drive Unlimited notamment, voilà, c'était une île que vous arpentiez, vous viviez une vie de bohème mécanique.
Du coup, on a l'impression que presque la place de la voiture ou du véhicule est assez, pas anecdotique ou optionnelle, mais c'est plus l'espace, qu'en l'occurrence, c'est plus l'Australie, c'est plus le soleil couchant, c'est plus la végétation, qui est presque plus importante dans ce jeu-là ou dans la simulation, dans la proposition qui est faite par le jeu vidéo.
C'est très clairement, je sais plus dans quel article, Ubisoft faisait ça, c'était un peu un tour opérateur. Il y a ça, c'est-à-dire que dans le jeu vidéo, c'est des espaces, on découvre des univers. Parfois, c'est la galaxie entière, comme dans No Man's Sky, soit l'Australie, ça peut être des mondes fictifs. C'est avant tout des mondes. On ouvre sur des mondes où on peut agir de certaines manières. C'est vrai que le véhicule motorisé, c'est quelque chose de très pratique parce que vous pouvez aller très rapidement d'un point A à un point B, faire varier les espaces. Et en même temps, ça renoue avec du physique, du matériel, du concret, de la machine. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Mais les jeux de vaisseaux spatiaux, ça procède du même principe. C'est de découvrir ces univers. Qu'est-ce qu'on a bâti comme monde? Et là, dans Forza, on est dans cette logique-là, très clairement. C'est un monde qui est ouvert. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où est-il vivant? Et là, c'est la question qu'on va se poser. C'est jusqu'où est-il vivant? Parce qu'on le traverse à toute allure. L'étape suivante, c'est descendre de la voiture.
Et justement, c'est exactement la question que j'allais vous poser. Quand vous dites qu'il nous laisse toute la liberté et quand William Oduro dit c'est un jeu qui est permissif, est-ce qu'on a presque jusqu'à la liberté d'ouvrir la portière et de descendre et de s'asseoir près d'un arbre en Australie?
Et non, pas encore. Pas encore, parce que il y a un des rares jeux qu'il fait, encore une fois, c'est GTA. C'est-à-dire que vous allez à fond et puis vous vous arrêtez, vous contemplez. Après, vous pouvez contempler comme au driving dans Forza, hein, dans la voiture, ou en vue éloignée, mais... L'humain, quelque part, a disparu. C'est ça qui est intéressant.
Dans sa capacité de décision.
Mais même dans sa présence. C'est la présence dans la vie. C'est la voiture, le personnage. C'est un personnage, c'est le protagoniste. Et ça, ça change aussi beaucoup. Et ce qui fait que non, on contemple au travers de la voiture, finalement.
On a entendu tout à l'heure la voix d'une jeune femme, c'est la seule en dehors de la mienne qu'on a entendue pendant cette émission sur les jeux vidéo de voiture, Kijuki, qui donne autant de conseils que possible sur YouTube. Quelle est la part des joueuses féminines aux jeux vidéo de voiture, si on a moyen de savoir?
Non, en tout cas moi j'ai pas de chiffres forts là-dessus, on présuppose que c'est très très masculin. Après c'est aussi lié aux valeurs véhiculées derrière, c'est vitesse, excitation, ça a été marketé comme tel. Mais pour revenir par exemple à mon petit domaine que je connais, je sais que j'ai des joueuses qui sont meilleures que les joueurs sur mon jeu de voiture, plus concentrées, plus...
Sur The Good Drive.
Ouais, beaucoup plus, voilà, qui le jouent mieux, en tout cas selon les règles que nous on a établies. Et c'est ça, c'est intéressant. Et il n'y a pas du tout c'est vrai que les garçons sont plus, allez, c'est GTA, on y va à fond. Et alors que là, on est beaucoup plus dans quelque chose, on écoute aussi, on écoute plus le jeu. Donc, et pour le coup, là, c'est 50-50, il n'y a pas de discrimination.
Vous l'avez dit aussi un tout petit peu tout à l'heure, que les joueurs les conducteurs, pardon, réels de Formule 1 ou de cartes s'entraînent sur les jeux vidéo. Est-ce que le chemin inverse est possible? Est-ce qu'on peut être un très bon joueur sur jeux vidéo et terminer par courir réellement dans des écuries sur des circuits amateurs ou professionnels?
Il y a eu une expérimentation de Sony, je crois, à un moment donné, faire des ligues de grands joueurs de jeux vidéo qui basculaient sur le réel. Après, c'est pas du tout le même entraînement physique, en fait. C'est-à-dire que dans de la course automobile, il y a un entraînement du corps qui est très important. Voilà, c'est des athlètes. Il faut être capable de tenir les accélérations et d'être capable à la fois de tout voir, de tout analyser. Donc, c'est autre chose. Par contre, sur certains jeux, on se rend compte que des coureurs d'automobile, si on leur met bien un siège volant, un pédalier, ils sont capables quasiment de faire le même temps. Mais parfois, ils le font aussi mieux à la manette. C'est ça qui est assez étrange, en fait. Qu'est-ce qu'on simule dans ces jeux-là? En fait, on peut simuler plein de choses. Les Gran Turismo, ils ont simulé les terrains. C'est leur grand avancé. D'autres vont simuler les voitures. D'autres vont simuler le rêve de l'exploration. Voilà, nous, c'est la conduite. Mais on peut faire plein de choses, en fait.
Et alors, vous attendez quoi? Je sais pas, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on descend de la voiture. Moi, ce serait peut-être, en effet, quelque chose qui me rendrait curieuse. Mais vous attendez quoi, là, dans les prochaines innovations du jeu vidéo de voiture?
C'est peut-être pas forcément du côté de la simulation, c'est peut-être renouer avec ce qu'on avait, l'esprit des années 80, un peu une aventure, mais qu'on a aussi toujours avec Mario Kart, quoi. Du jeu de voiture où la voiture c'est un véhicule peut-être pas aussi sérieux que ça, hein. À un moment donné, ça reste beaucoup assez sérieux, c'est un peu pesant. Voilà, il y a la légèreté qui doit être nécessaire. Il y avait une série que j'aimais beaucoup qui était Burnout, où on conduisait des voitures, mais il fallait créer des accidents. Et il y avait une esthétique de l'accident qui était bien faite, qui est tombée un peu en désuétude. Voilà, il y a des choses comme ça, d'autres interactions à réfléchir. Peut-être, pourquoi pas, bricoler des voitures juste avec n'importe quoi, hein, de briques et de brocs, des choses... un peu à la Mad Max aussi. Il y a plein de choses à emprunter, à imaginer autour de ça, des jeux de véhicules voiture.
Un peu de dérision et d'humour, quoi.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Et il est 14h53 sur France Culture, l'heure de la rubrique 5 fois. On demande à quelqu'un de nous raconter 5 récits subjectifs en lien avec le chantier thématique de la semaine. Alice Ramon est allée rencontrer Christiane Peugeot pour lui demander de lui raconter 5 souvenirs. Aujourd'hui, le souvenir d'un accident.
Là, j'ai 38 ans et mon mari conduit. Nous sommes dans leur voiture et mon mari conduit. Et soudain, en sens inverse, arrive un énorme camion qui conduit des cubitaires de lait. Et mon mari freine à mort. Et moi, il n'y avait pas la ceinture à l'époque. Donc j'étais assise à la place du, ce qu'on appelait la place du mort. Et moi, je fonce dans le pare-brise, je vais casser le pare-brise avec mon front. Donc j'avais une énorme cicatrice dans le haut du front. On a été à l'hôpital et il y a eu un jeune interne qui m'a recousu à petits points. Peu de temps après, d'ailleurs, on a quand même inventé la ceinture de sécurité.
Est-ce que les accidents de voiture à l'époque étaient très fréquents, vu qu'il n'y avait pas de ceinture ?
Ah non, c'était beaucoup plus fréquent que maintenant, oui, bien sûr. La voiture était finalement dangereuse quand même, parce que sur les routes, on faisait la vitesse qu'on voulait. La vitesse n'était pas limitée. Moi, j'avais un oncle, et il était un peu le tout fou de la famille. Et lui, il disait que quand il arrivait à un croisement, il accélérait, il fermait les yeux, il accélérait. Il disait comme ça, je diminue le temps où je suis en danger à rencontrer une autre voiture. Oh bon, il était tout fou, lui. Hein.
Écoute, c'est toi qui conduis ou moi ? C'est moi. Bon alors tais-toi. Y'a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans. Écoute, écoute un peu ça, poupée. T'entends mon air préféré. Mets-moi la radio un peu plus fort et n'aie pas peur, je vais pas aller dans les décors. Carlo, c'est ça le manque de peau. Flaque la Jaguar, fait une embardée et droit devant la vlaque qui pique dans le fossé. Et pendant que tous deux agonisaient, la radio a continué de gueuler. À la petite cuillère.
Voilà une affaire qui finit mal avec Gainsbourg et le jazz dans le ravin. Olivier Mauquez, qui a souvent des accidents dans les jeux vidéo de voiture.
Tout le temps, c'est ça qui est chouette. Non, il y a une recherche de l'accident, en tout cas de la conduite la plus à risque, la plus extrême. Et oui, il y a un accident et l'avantage, c'est que c'est pas grave.
Alors vous, vous disiez qu'il y a des jeux vidéo qui valorisent l'accident ?
Oui, Burnout valorisait l'accident, Carmageddon valorisait l'écrasé de piétons. Voilà, ce sont des jeux qui mettent ça en scène, mais c'est pas des jeux où c'est pas pour apprendre à conduire, enfin, devenir un conducteur.
Oui, c'est ce que j'allais dire, dans The Good Drive, vous valorisez pas l'accident, j'espère.
Non, on enlève plein de points.
Vous enlevez plein de points.
Game over.
Tout s'arrête.
Tout s'arrête.
La voiture est cassée. Bon, et vous travaillez avec des auto-écoles ?
Oui, avec les auto-écoles ECF pour la France.
Merci beaucoup Olivier Mauquez.
Merci à vous.
Les nouvelles vagues, c'est terminé. J'espère que personne n'a eu d'accident. Vous pouvez retrouver l'émission sur franceculture.fr et on peut continuer d'échanger sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et le faire circuler fort, largement autour de vous. Un grand merci à Romain Dobec de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi. Un grand merci aussi à Véronique Villa qui la réalise. Aujourd'hui aux manettes, c'était Pierrick Monsigny. À la suggestion musicale, Michael Simon. On se retrouve, nous, demain, même heure, même chaîne.